notre lancée sur ce sujet si important qu'est le couple. Donc, je suis pas venu, on n'est pas venu les mains vides. Vous pourrez tous repartir avec les enseignements écrits. Alors, on va vous demander peut-être de vous les faire passer, d'en prendre un par couple. Et s'il en reste, on en donnera encore un supplément. Voilà. Voilà, comme ça, s'il y a des personnes qui n'ont pas pu être là ce matin, qui peuvent pas être là ce soir, vous pouvez avoir les enseignements écrits. Il y a des choses aussi qu'on n'a pas le temps d'aborder qui sont dans ces feuillets. Pour les personnes aussi qui le désirent, vous pouvez repartir avec les CD, avec les enseignements, ou bien les commander. Et ça permet de soutenir la mission. Et dernière petite annonce en introduction, nous avons une petite boîte, et cette petite boîte, c'est pour soutenir notre ministère. Quand je dis notre ministère, c'est pour soutenir notre famille, afin que nous puissions vivre. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais de plus en plus, en allant de l'avant, nous désirons que les gens puissent donner avec un cœur joyeux et non pas par contrainte ou parce qu'une boîte est passée. Amen. C'est pour ça que vous avez vu dans nos séminaires, eh bien, nous parlons clairement sur le sujet, mais les gens sont tout à fait libres de pouvoir donner, de ne pas donner. Alors il y a cet équilibre à trouver entre le fait d'enseigner clairement les gens sur un sujet sans pour autant eh bien, aller leur prendre l'argent dans leur poche. Amen. Parce que rien de ce qui est donné par contrainte, de toute façon, ne demeurera pour le royaume de Dieu. Donc je n'ai aucun avantage à recevoir un centime qui est donné par contrainte parce que Dieu ne me bénira pas à long terme avec et ne bénira pas celui qui a donné à long terme avec. Est-ce que vous me suivez? Donc il vaut mieux peu donner avec un cœur joyeux parce que ça produira un fruit pour le royaume des cieux que beaucoup donner bien par habitude ou par contrainte. Amen. Voilà, donc nous voulons continuer dans la lancée de ce matin. Et il y a des choses vraiment que les hommes doivent entendre au sujet des femmes et les femmes doivent entendre au sujet des hommes. Amen. Elle surveille. C'est dangereux ce soir, elle va. Je sais pas où elle va arriver. Alors en même temps que d'aimer sa femme, la Bible dit à l'homme d'éviter de s'aigrir contre elle. Colossiens 3:19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Alors c'est bien souvent d'aller regarder ce que dit un verset dans d'autres traductions pour avoir des précisions quant au sens de ce qui est dit. La parole vivante dit « ne soyez pas durs avec elle ». La Bible de Jérusalem dit de leur montrer point d'humeur mauvaise, donc de mauvaise humeur. C'est bon d'avoir ces précisions, hein? Donc il semble que s'aigrir, être dur, manifester de la mauvaise humeur, s'énerver, est plus le partage de l'homme à l'égard de sa femme que le contraire. Comme nous l'avons mentionné ce matin, ça n'empêche pas certaines femmes d'être très mauvaise humeur souvent. Mais si la Bible dit à l'homme d'éviter de s'aigrir après son épouse, c'est qu'il a plus la tendance d'aller dans ce sens. On avait expliqué cela ce matin. Et si la Bible insiste pour l'homme sur ce point, c'est qu'il est spirituellement très important. Dans notre pays, des femmes meurent chaque semaine sous les coups de leur mari. Sans aller jusque-là, il y a une tendance de l'homme à la violence. Cette violence est une abomination devant Dieu. Et pas seulement pour les maris, Dieu n'agrée aucune prière, ni jeûne, d'après Ésaïe 58:3, de personnes facilement irritables et qui traitent durement les autres. Et parfois on se met à jeûner et rechercher la face de Dieu, et parfois on est beaucoup plus irritable, c'est normal quand on jeûne que quand on ne jeûne pas. Alors on jeûne pour devenir meilleur, parfois on devient pire. C'était le problème des Hébreux, c'est pourquoi le Seigneur leur dit, c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais si tu jeûnes et que tu pries pour devenir pire, il vaut mieux que tu ne jeûnes pas. Car le jeûne auquel je prends plaisir, dans le but de rechercher ma face à travers prière et jeûne, c'est de devenir meilleur. Amen. Et combien de gens, combien de chrétiens que nous connaissons, chaque fois qu'ils essayent de se rapprocher de Dieu, c'est pour devenir pire au lieu de devenir meilleur. Donc il vaut mieux qu'ils n'essayent pas de se rapprocher de Dieu. Amen. Parce qu'ils s'en éloignent. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Et le Seigneur répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc les gens devenaient pires dans ces moments. C'est un point important. Quand je cherche la face de Dieu, c'est toujours pour devenir meilleur. Si en cours de route, je suis en train de devenir pire, je dois me poser des questions. Si l'homme ne veille pas, il va s'irriter régulièrement contre sa femme, parce que c'est une tendance naturelle, héritée de la mauvaise nature. Tu as décidé de t'asseoir là. Il risque même de la rendre responsable de tous les problèmes qui lui arrivent. À bien comprendre au sujet des femmes, parce que c'est pas toujours évident de comprendre une femme. Dans le Nouveau Testament, dans la femme doit être soumise à son mari, on y reviendra, et doit apprendre à garder une place de femme dans la société, et nous n'avons nullement l'intention de le remettre en question. Simplement, il y a une différence entre être soumise à son mari et être écrasée par son mari. S'occuper des soins domestiques, dont parle Paul, et ne faire que cela. Être retenue et être complètement effacée. Être chaste et s'habiller comme une grand-mère. Il y a certains chrétiens ou certains pasteurs, vous voyez leur femme, vous ne savez pas si c'est leur femme ou leur grand-mère. L'Esprit de Dieu ne veut pas s'associer aux injustices. C'est pourquoi le Seigneur accentue bien le jour de la Pentecôte dans la bouche de Pierre les paroles de Joël qui mettait au même rang les serviteurs et les servantes. Acte 2.18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il n'y a pas de différence pour le Seigneur. Alléluia. Il y a simplement des places différentes. Et chaque place est d'autant honorable. La femme a chuté la première, c'est vrai, et cela peut dénoter qu'il y a des faiblesses typiquement féminines et qu'elles doivent veiller. Mais est-ce qu'il n'y a pas des faiblesses typiquement masculines? À partir de là, comme les pharisiens et la société juive de l'époque, beaucoup de chrétiens et de pasteurs ont porté la soumission de la femme au-delà de ses vraies limites imposées par Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que la femme a reçu également, à la suite de la chute, justement, une promesse d'autorité fantastique. Genèse 3.15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, » il dit au serpent, dans Satan, « entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Écraser la tête de Satan, oh, vous parlez d'une promesse? Vous voyez, nous, parfois, la manière dont on prêche, on accentue beaucoup sur le fait qu'elle a chuté. Mais dans les pages de la Genèse, il n'est pas seulement question qu'elle ait chuté, il est aussi question que dans sa grâce, Dieu lui donne des promesses fantastiques d'écraser la tête de Satan. Alléluia. Si on part de ce verset qui dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé », on doit plus se concentrer sur la promesse de victoire qu'elle a reçue que sur la chute qu'elle a provoquée. Amen. Il y a toute une vérité exprimée ici. Il y a inimitié, le Seigneur dit à Satan. C'est-à-dire, il y a une haine féroce entre les deux parties. Satan et la femme, c'est la guerre. Vous avez vu comment le diable il traite les femmes dans le monde? Il les déteste encore plus que les hommes. Il veut les empêcher de paraître. Ce que Dieu exprime dans ce verset, c'est que Satan ayant fait chuter la femme en premier, celle-ci en Jésus et en tant qu'église, mais en tant que femme tout court aussi, est supposée être animée d'une sainte colère, parce que souvent on dit c'est la promesse pour l'église. C'est vrai, mais il parle aussi à une femme. Donc ça concerne l'église et ça concerne la femme tout court. Et la femme est supposée être animée d'une sainte colère en se disant le diable il s'est moqué de moi et maintenant il doit payer en retour ce qu'il m'a fait. Et ce qu'il m'a fait faire. C'est une manière intéressante de regarder la chose. La Genèse, même après la chute et la malédiction, ne contient pas, comme l'imaginent certains, une suite de prises de position dures contre la femme, la reléguant en dernier rang. Elle montre ce que va devenir la femme quand on lit bien, qui dès lors acceptera de réagir face au péché, un instrument de destruction des œuvres de Satan entre les mains de Dieu. Animé d'un esprit de consécration et de sacrifice qui l'amène à vaincre au prix de son talon blessé, c'est-à-dire au prix de certaines souffrances. Mais c'est beau ça. Alléluia.
C'est pourquoi, d'ailleurs, pourquoi on trouve tant de femmes qui sont en intercession. Parce qu'il se met à cette position entre Satan et l'homme. Et elles savent intercéder. Et j'ai vu quand les femmes se mettent vraiment en rage contre Satan, c'est souvent c'est à ce moment-là qu'ils ont une percée spirituelle dans leur vie. On parlait tout à l'heure de vouloir avoir un mari ou un époux ou quelque chose comme ça, avec quelqu'un qui disait « oui, je me suis mis en colère, j'ai tapé sur la table ». Mais je pense que c'est vrai qu'autant que notre corps extérieurement, on a, on pourrait dire, certains désavantages parce qu'on a moins de force physique en moyenne par rapport à la corpulence de l'homme. Mais on a un avantage extraordinaire, c'est qu'on a aussi une souplesse. On a une souplesse, mais on a aussi une force intérieure. Et beaucoup de femmes, on les regarde, on dirait une petite bout de femme là, qui est tout timide, mais ce sont des guerrières, mais extraordinaires dans le monde spirituel. Et que nous, peut-être on sait mieux cultiver cette guerrière intérieure que les hommes. Parce que les hommes, ils se regardent leur force physique et confondent un peu trop souvent les deux. Qu'une femme, on n'a pas le choix. On dit, mais alors mon corps, il ne suit pas. Je veux dire, il change constamment. Donc, on ne peut pas considérer de la même manière. Alors, on construit une force intérieure spirituelle. Et c'est là où on peut vraiment se battre contre l'œuvre de Satan et gagner des guerres. Pour le nom de Jésus. Voilà. Je vais revenir.
Dans la femme a une capacité d'enfantement, c'est clair. Et c'est pas étonnant donc, si on voit tant de femmes au départ des réveils plus que d'hommes. Au cours des réveils, on a noté que c'est surtout des femmes qui viennent aux réunions. Et un homme de Dieu disait, donnez-moi juste quelques femmes qui prient, on aura un réveil. Et on voit les hommes arriver souvent après. La femme a une capacité d'enfantement, c'est clair. Et ce qui est physique ou matériel correspond toujours à une réalité spirituelle. Et cette capacité existe tant dans le domaine de notre spirituel que le domaine physique. Et l'adversaire veut empêcher les femmes d'enfanter des âmes, d'enfanter des dons que Dieu leur a donnés. Il essaye de tuer ces dons dans l'œuf ou à la sortie des entrailles. Apocalypse 12-13. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter. Il y a une réalité spirituelle afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc il n'est pas étonnant que le diable veuille faire s'asseoir ses femmes par tous les moyens. Il veut les voiler, il veut les cacher. Il ne vaut plus qu'on les voit même. Et il veut les briser. Et les maris ne doivent pas se laisser utiliser par Satan pour briser leurs femmes. Sinon, sans s'en rendre compte, ils deviennent des instruments de l'adversaire pour briser leurs femmes. Il ne faut pas que les hommes ils entendent ces choses-là. Dieu nous confie nos femmes. Dieu nous confie nos femmes pour qu'on s'en occupe, non pour qu'elles soient nos esclaves ou nos souffres-douleurs. Dans la Bible, il est question de prendre soin de sa femme. On parle de Sarah qui appelait Abraham mon Seigneur, justement parce qu'elle le respectait. Mais c'est une femme libérée. Elle n'a pas besoin d'adhérer au MLF. Elle est déjà libérée. Elle fait ce qu'elle veut. Quand elle veut s'occuper de la servante égyptienne, il lui dit « fais ce que tu veux ». Elle va aller au cinéma, elle lui dit « vas-y ». Est-ce qu'on ne devrait pas prendre soin de nos femmes comme on aimerait que leur mari ou futur mari prennent soin de nos propres filles, pour ceux qui ont des filles, hein, les papas? Et ne pas leur faire ce qu'on n'aimerait pas que leur mari leur fasse à nos filles. La Bible dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et a manifesté son amour en allant jusqu'à donner sa vie pour elle. Wow, le programme. Ce n'est pas peu de choses. Hein. On peut dire que peu d'hommes sont amenés à littéralement donner leur vie pour leur femme. Mais si ce verset est là, c'est qu'on doit pouvoir donner notre vie dans d'autres domaines de la vie de chaque jour pour nos épouses. Alléluia. On peut faire un ensemble de choses qui vont décharger, soulager notre conjoint, l'aider à se sentir bien dans sa peau, se sentir aimé, estimé, précieux. Comment aimer sa femme en donnant chaque jour sa vie pour elle? D'ailleurs, spécialement si elle est appelée à servir. Vous savez, une femme qui a des enfants, si elle est appelée à servir, elle a intérêt d'avoir un mari qui va prendre une part du fonctionnement. Et s'il ne peut pas la décharger directement, ben, qu'il embauche quelqu'un et qu'il paye pour le ménage et toutes ces choses-là. C'est quelque chose que le rôle d'une femme. Faire des enfants, c'est déjà un sacrifice de son corps, de son temps. C'est de la douleur. Il paraît que la douleur que supporte une femme pour accoucher, un homme ne pourrait pas la supporter, il mourrait. D'ailleurs, quand on a assisté à un ou plusieurs accouchements de sa femme, on le sait. Hein. Donc, une femme mérite d'être honorée. Et c'est ce que dit Pierre 3:7, honorez-la. Amen. Waouh. Pour les hommes, maintenant. Jusque-là, vous pourriez me dire, il n'y en a que pour les femmes. Est-ce que les hommes ne sont jamais victimes, maltraités par des femmes? Certes. Et nous y venons. Si l'Écriture dit aux hommes d'aimer leurs femmes et ne le mentionne pas pour les femmes vis-à-vis de leur mari, cela ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas aimer leur mari. Peut-être est-ce d'ailleurs parce qu'il n'est pas besoin de le préciser que l'apôtre Paul ne le précise pas pour les femmes. Une femme qui aime un homme semble avoir moins de difficultés à le supporter, à lui être fidèle que le contraire. Paul insiste sur le point à travailler particulièrement pour chacun, comme on l'a dit ce matin. Il mentionne chez chaque conjoint le point par excellence qui, s'il est mis ou non en pratique, va faire réussir ou échouer le mariage. En ce qui concerne la femme, il lui est demandé d'accepter d'être soumise à son mari. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Alors souvent, c'est difficile à écouter seulement ce langage parce que le mot soumission, on voit la définition de suite qui est la soumission dans le monde. Mais il y a beaucoup de définitions bibliques qui ne sont pas les mêmes définitions que dans le monde. Amen. Quand tu es le chef de quelqu'un dans le monde, tu es chef et tu domines. La Bible nous dit que Christ est le chef de son église et le texte et le terme grec nous dit que c'est la source avant tout. Donc tu es une source de bénédiction. Le mot chef, c'est que tu es une source de bénédiction avant de commander et de donner des ordres à tout le monde. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a voulu montrer qu'il était le Seigneur, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a bien précisé à ses disciples qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous que ce qui se passe dans le monde. Parce que dans le monde, les autorités oppressent ceux qui sont sous leur autorité. Et qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. C'est-à-dire la définition des expressions bibliques n'est pas la même définition qui est donné souvent dans ce monde. Parce que c'est pas le même esprit. Alléluia. Alors, nous expliquerons plus en détail que cette soumission est un acte volontaire de la femme et non qui est imposé. La Bible ne dit d'ailleurs jamais dans l'Écriture aux hommes de soumettre leur femme. Donc ce n'est pas un commandement qui concerne l'homme, c'est un commandement qui concerne la femme. Est-ce que vous me suivez? Et là, ça change tout. Donc ce n'est pas une soumission qui consiste à écraser ou être écrasé. Elle n'a pas de rapport, cette soumission, aussi, selon Dieu, avec un rôle secondaire ou inférieur. Mais un rôle complémentaire. Et on l'a expliqué plusieurs fois, dans tout fonctionnement avec d'autres personnes, il faudra toujours qu'il y ait un leader à un moment donné. Amen. On ne peut jamais avoir deux têtes. Et même dans le couple, Dieu, il a placé quelqu'un qui a la place de leader. Et c'est comme ça. Mais les leaders ne sont pas obligatoirement des gens supérieurs. Ok. Mais nous l'avions vu aussi dans d'autres enseignements, chacun a une sphère d'autorité, la femme a une sphère d'autorité, l'homme a une sphère d'autorité, et à un moment donné, de toute façon, nous sommes toujours soumis à quelqu'un lorsque nous rentrons dans sa sphère d'autorité. Ces précisions apportées, on peut comprendre que dans un couple, cela ne peut fonctionner que si chacun reste à sa place, et pour rester à sa place, il faut tenir sa place. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce monde pour nous faire quitter notre place. Et quand on quitte sa place, on quitte après son identité. Et après, on ne sait plus qui on est. Il y a deux vérités négatives à voir en face dans notre société concernant le couple. L'oppression que des hommes ont fait subir à beaucoup de femmes et l'insoumission de beaucoup de femmes à l'égard de leur mari. Parfois, l'insoumission de la femme est due à la démission de l'homme. D'autres fois, à la lassitude de l'homme vis-à-vis de sa femme qui est dans l'insoumission continuelle. Vous voyez, toujours, il faut voir les deux aspects. Et dans chaque situation, ça peut être différent. Il existe aussi beaucoup de schémas de couple où des femmes ayant des maris formidables et qui ont choisi de mépriser leur mari au lieu de les apprécier car elles voulaient le pouvoir. Mais ces schémas du monde ne sont pas au départ supposés se développer dans l'Église, comme ils le font souvent. Si l'homme est tenté de maltraiter sa femme, la femme sera tentée de son côté de dominer le mari. Car Satan veut pousser chacun à intervertir l'ordre des choses. Être tenté, c'est quoi ? C'est être tenté de sortir de sa place et d'occuper une place qui n'est pas la sienne. Le propre même de la tentation est de chercher à nous pousser hors des schémas établis par Dieu. De même que tout homme est tenté de faire subir des sautes d'humeur à sa femme, toute femme est tentée à un moment donné d'usurper l'autorité de son mari. D'ailleurs, ne pas usurper l'autorité du mari, c'est le vrai sens du verset de 1 Timothée 2:12, le fameux verset qui dit que Paul interdit à la femme d'enseigner. Dans le grec, il interdit à la femme de prendre autorité sur son mari, ce qui est très différent. Et donc on a attribué au domaine spirituel un verset qui concerne le domaine social dans les relations du couple. D'ailleurs, quel exemple il donne Paul à cet instant? Il donne l'exemple d'Adam et Ève. Et Adam et Ève, c'était un couple, que je sache. Une des meilleures armes de Satan, bibliquement, c'est une Jézabel. Cet esprit se retrouve à lutter dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau contre Dieu. Il prend donc de la place, c'est dans la Bible. Et il n'est pas vraiment question d'un Jézabel homme. Hein. Donc Jézabel est une femme, tant celle de l'Ancien Testament que celle du Nouveau. Donc le principe de cet esprit est d'usurper l'autorité de l'homme. Jézabel fait trois choses: séduit, manipule et vole l'autorité de l'homme. C'est parce qu'elle séduit qu'elle manipule, et parce qu'elle manipule qu'elle prend l'autorité. Ok, c'est pour que vous compreniez mieux. Non, c'est spontané. Alors attention, mesdames, lorsque vous avez envie de séduire, manipuler et dominer votre conjoint, il y a du démon dans l'air. Donc pour qu'il y ait une Jézabel, maintenant il faut aussi qu'il y ait un Akab, c'est-à-dire un homme qui se laisse dominer. Donc si l'homme ne doit pas soumettre sa femme ni la maltraiter, il ne doit pas pour autant la laisser dominer sur lui. La femme a d'ailleurs du mal à respecter un homme faible. Alléluia. Donc il faut que chacun tienne sa place. Et au bout d'un moment, si chacun tienne sa place, ça fonctionne naturellement. Je ne me lève pas tous les matins en disant « Il faut que j'aime ma femme, il faut que j'aime ma femme, il faut que j'aime ma femme. Je dois être soumise à mon mari, je dois être soumise à mon mari, je dois être soumise à mon mari. » Non. De toute façon, tu as envie d'être soumise à quelqu'un qui ne te donne que de l'amour. Amen. Et tu as envie d'aimer quelqu'un qui te manifeste beaucoup d'égards et qui te fait te sentir un homme. C'est facile d'agir comme un homme quand on te fait sentir que tu es un homme et non pas une lavette. Vous me suivez? Alors vous allez la suivre aussi.
Oui, c'est que dans cette société dans laquelle nous sommes, vous avez tous remarqué les difficultés que nous avons au niveau d'identité masculin-féminin. Ce n'est pas que la mode qui rend parfois les choses confuses, mais c'est vraiment un esprit qui essaie de rendre les choses gris et pas noir et blanc. C'est pas péjoratif, je veux pas dire que les femmes sont blancs et que les hommes sont noirs. On peut prendre un autre exemple comme rouge ou rouge et vert, mais la société essaie de rendre les identités de chacun avec plus en plus de confusion, parce qu'en fait quand on se dit oui, mais alors une femme elle va partir travailler et l'homme il va rester à la maison s'occuper de ses enfants, on va dire ah mais ça c'est le rôle d'eux et le rôle d'eux. Et donc si on sort de ce schéma bien tracé, eh bien on va se dire eh bien elle n'est pas féminine ou il n'est pas masculin. Que de faire ces choses là n'a rien à voir avec l'identité masculine féminin. Chaque couple il a un arrangement, un équilibre à trouver entre eux. Moi je connais des couples qui sont très il est très masculin, elle est très féminin, mais c'est elle qui travaille, c'est lui qui avait envie de rester pendant une année à la maison, garder les enfants pour justement cultiver cette ce côté paternel en vue de nos sociétés, une vie avec l'école et des études, etc., où ils savaient que quand les enfants sont plus grands, eh bien, ils ont de plus en plus de difficultés, parfois les pères, de passer du temps avec leurs enfants. Qu'à une certaine époque biblique que je connais, l'homme était beaucoup plus présent auprès des enfants. Et la femme, parlant de travail, eh bien, que ce soit notre travail physique ou mental, de toute façon, le boulot, on a toujours notre dose, n'est-ce pas? Donc, parfois, on met des étiquettes par rapport à des comportements, mais ce n'est que la société ou l'époque dans laquelle on vit qui va imposer ces rôles. Et si on veut essayer de comparer notre couple avec le magazine de Marie-Pierre ou avec autre chose, eh bien, un moment de... Marie-Claire, tu dis Marie-Pierre? Oh, pauvre Marie-Pierre. Tu ne lui dis pas que je dis Marie-Pierre. Alors, Marie-Claire ou d'autres magazines, à un moment donné, quand on lit, eh bien, les valeurs et les rôles de chacun, ça devient tellement confus. On se demande vraiment, et on peut comprendre pourquoi il y a tant d'homosexualité et les problèmes lesbiennes qui se montrent aujourd'hui dans cette société. C'est vraiment le reflet d'un mal-être et une recherche d'identité. Et que c'est pourquoi qu'il faut absolument que dans nos milieux chrétiens et dans nos églises, on enseigne davantage et on aide même les jeunes enfants et ceux qui sont au collège et au lycée. Mais quel est le rôle d'un homme? Quel est le rôle d'une femme selon la parole de Dieu? Ça veut dire que quels sont les atouts, les privilèges que nous avons en étant féminin ou en étant masculin? Parce que quelque part, cette société, elle encourage de plus en plus les hommes de devenir de plus en plus féminins dans leur manière, comportement de prendre des décisions ou de fuir l'autorité ou d'être irresponsable ou de, etc. Et c'est pareil pour les deux côtés. Enfin, je n'ai pas besoin de faire un tableau, vous comprenez exactement ce que je veux dire. Et c'est pourquoi il faut qu'on revienne un peu en arrière et qu'on prenne la parole de Dieu, on dit, Seigneur, quelle est mon identité en toi? Vous savez, à partir du moment qu'on est sûr de notre salut, sûr de notre identité en Christ, eh bien, quand la société il va essayer de nous tirer vers des choses qui ne sont pas naturelles, eh bien, on va se dire, ah, il y a quelque chose de bizarre là. C'est bizarre, ça ne me ressemble pas. Pourquoi ça ne va pas ressembler à un homme? Parce qu'on a l'empreinte de Dieu qui est dans notre vie. Et c'est ça la chose la plus importante. Et que nos enfants, ils voient cette empreinte. Et ensuite, eh bien, on peut se réjouir d'être une femme et on peut se réjouir d'être un homme. Bien sûr, c'est un peu compliqué parce que tout le monde sait que tout le long de notre vie, on a un petit côté homme et femme qui, parfois, eh bien, qui se change un petit peu. C'est un délicat équilibre. Mais dans la société, on a utilisé ce prétexte de dire en sorte que, voilà, les rôles masculins, les rôles féminins, d'être vraiment féminin, c'est une mauvaise chose. D'être vraiment masculin, viril, c'est une mauvaise chose. Et si on continue comme ça dans un siècle, eh bien, on va finir par effacer toute différence. Et ça, c'est pas bon. Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu, il veut que chacun de nous en trouve notre identité en lui. Et ensuite, les rôles de l'homme, le rôle de la femme, elle va surgir de la parole de Dieu et on ne va pas être confus. Amen. Ça y est, j'ai bien exprimé ça.
Alléluia. Alors, le fait que nous ayons dit que l'homme doit être aux petits oignons avec sa femme ne veut pas dire que les rôles doivent être inversés et que la femme porte le pantalon, comme on dit. Hein? Alors, il faut remettre chaque chose à sa place. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes appelés à être en crise les serviteurs les uns des autres. Dans une église, je l'ai dit plusieurs fois, lorsque les gens comprennent qu'ils sont là pour servir, non pas pour être servis, vous faites disparaître 80% des problèmes. Et bien dans le couple, c'est exactement la même chose. Est-ce que je suis marié? Je me suis marié pour être servi. Je cherchais un boy, je cherchais... Ou alors je cherche une femme qui je rentre le soir, je mets les pantoufles, les pieds sous la table, puis ça a intérêt de... C'est pas ça l'idée, au départ. Galates 5.13, rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. À plus forte raison, dans le cadre d'un couple, Avant de vouloir servir les extrémités de la terre, il faut bien s'assurer que l'on a décidé de servir nos proches. Amen. Rappelez-vous cela, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Non, avant de vouloir servir, il y a beaucoup de gens, ils veulent tellement servir Dieu et servir les extrémités de la terre, servir les Africains qui meurent de faim, servir les Indiens, servir les prostituées dans les rues, servir, c'est très bien. Mais d'abord, est-ce que tu sers tes propres enfants, ta propre femme, ton propre mari? Est-ce qu'eux peuvent déjà donner le témoignage et les extrémités de la terre? C'est bien qu'on vous envoie mon épouse ou mon mari parce que je sais qu'il sert bien. Je suis la première personne à être au bénéfice de son service. Ou est-ce que la personne a envie de dire « Hé les amis, de toute façon il fait du cinoche là-bas. Il fait du cinoche sur l'estrade. Ce qu'il a envie, c'est d'avoir une foule qui l'écoute prêcher. C'est que son ministère, il prospère. Mais quand il rentre à la maison, il est intenable. Je me languis qu'il reparte en mission. » Non, mais c'est important. Parce que là, on met la charrue avant les bœufs. Et quand on compare devant le Seigneur, eh bien, on va lui dire, tu as vu les âmes que j'ai amenées? Il dirait, ton propre fils, ta propre fille. Alors ça, c'est très important de parler de ça. Amen. Et des serviteurs de Dieu, on en côtoie, croyez-moi. Ok? Donc on sait ce qui se passe sur l'estrade, on sait ce qui se passe derrière aussi. Donc le problème de notre société, souvent l'égoïsme qu'on vit pour soi. On a souvent vécu pour soi pendant des années, et quand on se marie, on continue à vivre pour soi. On attend que l'autre nous donne sans avoir obligatoirement à lui donner. On se marie avec l'idée que l'autre va nous servir. Alors que l'idée est d'aborder le mariage avec le désir de servir l'autre. Voilà une bonne question à se poser. Quelle fut ma motivation première lorsque je me suis engagé dans le mariage, servir ou être servi? C'est bon pour l'église aussi, est-ce que je suis venu pour être servi ou pour servir? Si c'est être servi, eh bien il est encore temps de rectifier le tir. Alléluia. Alors cessons de regarder à ce que l'autre ne fait pas pour nous et concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire pour lui. Comptant sur la manifestation de ce principe spirituel que ce que nomme sème, il le récoltera, qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Dans l'égoïsme est la base des problèmes de couple. Vous ne pouvez pas vous engager dans le mariage en ayant décidé de garder vos habitudes de célibataire ou votre égoïsme, ou pour régler vos problèmes. Faites attention, vous ne rentrez pas dans un mariage pour régler vos problèmes. Parce que si vous en avez, avant de vous marier, qu'il en a, vous allez vous retrouver avec deux fois plus de problèmes. Alors ceux qui l'ont fait, je l'ai bien dit ce matin, nos enseignements aujourd'hui, c'est surtout pas pour condamner les gens, il y a toujours la solution de Dieu. Amen. Mais avant que Dieu nous donne une solution, il faut souvent qu'on comprenne ce qu'on a fait de travers. Parce que ce qu'on a fait de travers, c'est la prise de connaissance de ces choses, produit une repentance, donc une différence dans l'attitude de notre cœur. Alléluia. Et ça permet à Dieu d'agir dans notre vie. Et ça nous permet à nous de ne pas refaire les mêmes erreurs. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va se remarier. Et chaque fois, en choisissant la mauvaise personne ou en refaisant les mêmes erreurs qui vont de nouveau refaire exploser. On ne peut pas fuir son problème. Alléluia. Ça ne sert à rien de fuir son problème. Un problème doit être réglé. Parce que si on le fuit, il nous rattrape toujours. Parce que de toute façon, même le fuir, c'est une façon de parler parce qu'il est avec nous. Donc il ne nous suit pas derrière, il est là. On l'amène avec nous. Donc il faut le régler, alléluia. Comme ça, je vais être à même de donner à la personne avec qui je me marie, eh bien, une personne plus agréable à vivre parce qu'elle a déjà réglé beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi c'est important dans ces séminaires de couple que les célibataires viennent. Parce que c'est bien qu'ils entendent certaines choses qui vont leur permettre de régler, avant de se marier, certains points. Alléluia. Les églises sont remplies de candidats potentiels à l'adultère. Qu'est-ce que je dis là? Des personnes dont il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elles tombent dans l'adultère, qu'une situation se présente, le mauvais jour par exemple. Et est-ce que c'est parce que ces gens sont immoraux ou pervertis? Non. C'est parce qu'on ne prend pas soin d'eux à la maison souvent. Beaucoup de personnes ont exercé une telle pression sur leur conjoint que celui-ci a fini un jour par se tourner vers quelqu'un d'autre. Le conjoint trompé s'est alors érigé en victime, mais aux yeux de Dieu, est-ce qu'il n'est pas plus coupable, ou du moins autant, un minimum autant, que celui qui est tombé? Souvent, on a livré l'autre par son comportement à à l'adultère. Pas dans tous les cas, mais ça arrive aussi. Alors, loin de moi d'encourager les gens à divorcer, mais loin de moi aussi d'encourager des personnes à vivre des situations de couple qui soient un véritable enfer. C'est pas plus juste. Mais ne faisons pas de l'autre un candidat à l'adultère. Est-ce que vous me suivez ? C'est bien beau de prêcher, il ne faut pas divorcer, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, mais comment je me comporte à l'égard de l'autre ? C'est bien beau de dire il ne faut pas commettre d'adultère, on est absolument d'accord là-dessus. Mais si on fait tout pour que l'autre il ait des drôles d'idées dans la tête, le jour où il les a, il ne faut pas s'en étonner. Alléluia ! Vous êtes venus entendre des enseignements bien gentils ? C'est peut-être pas l'endroit. Aujourd'hui, on veut vraiment regarder la vérité en face. Ok ? Et ceux qui ont des années d'église évangélique, vous la connaissez aussi bien que moi, la vérité. Donc on ne va pas se raconter des histoires. Amen. Alors Dieu peut nous bénir en nous donnant un conjoint merveilleux, mais si on n'en prend pas soin, qu'on le traite n'importe comment, il est normal qu'on finisse un jour par le perdre, même si c'était le plan parfait de Dieu. L'amour est régi par des règles. À force de violer ces règles, l'amour s'estompe. Là où il grandit, lorsqu'on prend plaisir à les respecter. Amen. Le mariage, c'est une alliance. Une alliance est bâtie sur des engagements. Engagements pris, non par une seule personne, mais par les deux personnes concernées. Et lorsqu'on prend l'habitude de ne pas respecter ces engagements, vous savez, ce qui est difficile, c'est les habitudes qu'on prend. Quand on prend l'habitude de dire certains mots à l'autre, eh bien, on a pris l'habitude, donc maintenant, ça devient normal, rappelez-vous. La normale devient normale, on en parlait ce matin. On a pris l'habitude. On a pris l'habitude de dire « Tu me gonfles, tu m'énerves. Si ça continue, on va se séparer. » Mais après, le gars, il te dit « Mais je ne le pensais pas. » « Ouais, mais d'accord, mais tu l'as gavé pendant 10 ans. »« Oh, elle est partie. » »« Ouais, mais ça fait 10 ans que tu lui dis de ces jours, il faudrait que tu t'en ailles. »« Ah ouais, mais je ne le pensais pas. » »« Ah ben, si tu ne le pensais pas, il ne fallait pas le dire. » Parce que les paroles ont un pouvoir. Alléluia. Attention aux habitudes qu'on prend quand on se parle. Ça devient plus grave là. Tout à l'heure, on rigolait. Alléluia. Peut-être qu'il faut, avant d'essayer de bâtir quelque chose, il faut peut-être commencer à virer certaines habitudes qu'on a prises qui sont devenues normales. Et lorsque Dieu regarde ces mots, ces choses, il dit c'est pas normal. S'il y a quelque chose où ta femme ou ton mari te dit régulièrement ne me parle plus comme ça, bien prends-le au sérieux. C'est que ça la blesse vraiment, ou c'est que ça le blesse vraiment. Si la personne te dit ne me parle plus comme ça, fais une chose, ne lui parle plus comme ça. Parce qu'elle va encaisser, il va encaisser, il va encaisser. Et vous savez ce qui se passe, les gens qui pètent les boulons, comme on dit, sont loin d'être toujours des gens qui n'aiment pas Dieu ou qui ont un problème. Parfois ils en ont tellement encaissé qu'un matin ils se lèvent et c'est la goutte qui fait déborder le vase. T'as rien fait de plus, même t'as été plus sympa ce jour-là. Et c'est juste la goutte qui fait déborder. Pour ça que je ne juge pas les gens personnellement, malgré tout ce que je dis, hein. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Quand vous pétez un boulon, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas démarré le matin et ça finit le soir. Ça a démarré il y a 6 mois, ça a démarré il y a 10 ans. Mais ce matin, vous vous levez et vous n'en avez plus rien à cirer de ce que pense le pasteur, de ce que pensent les gens, de ce que pense votre mari et de ce que pensent vos enfants, parce que vous êtes plus en état. Alors les gens vont vous juger, mais peut-être que s'ils étaient passés par ce par quoi vous êtes passés pendant les 10 ans précédents, eux, ils s'en seraient sortis encore moins bien. Amen. Quand c'est qu'on pète les boulons, quand d'un coup, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Non, non. Non, mais de même, une relation peut être de mieux en mieux. Parce que chaque jour, on ajoute quelque chose de bon à cette relation. On ajoute une brique à cette relation. Donc, ça grandit, ça grandit. Chaque jour, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime quand on se réveille. Oh, c'est pas merveilleux, ça? Et là, d'autres, chaque jour, se lève, il y a quelqu'un qui râle au réveil. Évidemment, après 10 ans, t'en as marre. Chaque jour, tu te lèves, il y a quelqu'un qui te dit qu'il t'aime. Et puis, à midi, tu rentres et on te dit encore qu'on t'aime. Et le soir, tu rentres, on te dit encore qu'on t'aime. Bon, je sais pas. Alors si de temps en temps on te dit que tu es à côté de la plaque, ça te dérange pas trop. Les mots ont un pouvoir. Alléluia. Cette femme qui reproche à son mari, mais tu me dis jamais que tu m'aimes. Je lui dis, mais je te l'ai dit il y a 10 ans quand on s'est marié. Eh oui, mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous savez ce que ça signifie? Ça n'est pas juste parler du pain, la baguette, hein? Que chaque jour on a besoin de paroles qui soient fraîches, qui soient ouintes. Parce que chaque jour on prend des décisions, chaque jour on est confronté à Satan, chaque jour on passe par un petit moment dans la journée où on a envie de péter un boulon. Et heureusement si on a la bonne personne à côté de nous qui dit les bonnes paroles. Alléluia. Une part du succès de notre vie et de notre vie de couple en tant que chrétien, chrétienne, consiste, comme pour un véhicule, à trouver le bon réglage au niveau des trois domaines, on les abordera plus en détail ce soir, qui composent notre personne, l'esprit, l'âme et le corps. Dans l'esprit, vous ne le voyez pas, l'âme non plus, mais vous voyez le corps. Hein? Donc nous sommes tous venus avec nos corps. 1 Thessaloniciens 5:23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche. Donc comme cette personne-là a aussi un esprit, oui, une âme et un corps, regardez. Mais ça veut dire que je dois développer une relation au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Et si je néglige un seul de ces trois domaines, ça ne va pas bien fonctionner. L'humour fait partie d'ailleurs de cette relation qu'on est supposé développer avec les autres. Amen. Donc, si vous n'avez pas une relation au niveau de l'humour aussi avec votre conjoint et vos amis, il va falloir en bâtir une. Amen, parce que l'humour vient de Dieu.
Alors d'ailleurs, je trouve qu'il, vous trouvez qu'il prêche très bien, hein? Eh bien, je lui ai bien enseigné. Hein?
Bon, il y a des fois, il faut couper le micro là-bas. Hein? Donc, on peut tomber amoureux du physique d'une personne, c'est-à-dire que notre motivation et attirance première à son égard, c'est son aspect physique. Une relation qui démarre sur cette base doit impérativement évoluer. Parce qu'elle est bien fragile. Si ce n'est pas le cas, si elle n'évolue pas, une relation qui est simplement bâtie sur le physique va à l'échec. Car elle est bâtie sur des valeurs telles que la séduction et la convoitise. On peut tomber amoureux de la partie intellectuelle aussi, de l'âme d'une personne, ce qui ne va pas nous mener beaucoup plus loin non plus. Maintenant, il faut qu'il y ait avant tout une connexion spirituelle qui se fasse à un moment donné, car c'est l'esprit qui vient en premier. On est d'accord? Lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit naît de nouveau. Notre corps, il est resté le même. Hein? Vous êtes d'accord? Et notre âme est restaurée de jour en jour. Donc avant tout, Dieu nous dirige par l'esprit. Vous devez vous assurer que vous donnez priorité à l'esprit pour diriger les affaires et décisions concernant votre foyer. Si vous n'êtes pas encore marié, que votre futur conjoint a l'intention, vous devez vous assurer de fonctionner selon cet ordre. Et puis, si vous êtes parti dans le mauvais sens, j'ai toujours une bonne nouvelle, on peut rectifier le tir. Alléluia, et inverser l'ordre des choses. Notre esprit, c'est notre être profond. Il est ce qu'il y a de plus important, de plus proche de Dieu en nous. C'est lui qui est né de nouveau, né de l'esprit. C'est à travers lui que le Saint-Esprit va nous diriger pour nos choix et pour nos comportements. Alléluia. Et tout ce qui vient de l'esprit va engendrer un fleuve de vie. Amen. Mais ce qui vient seulement de la chair, celui qui sème pour la chair récoltera la chair, la tempête. 1 Corinthiens 2:11, qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ce qui ne signifie nullement que l'âme et le corps doivent être négligés. Une personne que vous aimez ne peut se contenter que vous lui disiez « Je veux me marier avec toi parce que je ressens dans mon esprit que c'est la volonté de Dieu. » Même si c'est le point de base qui doit déterminer votre choix. Elle a besoin que vous l'appréciez dans sa manière d'être, que vous la trouviez intelligente, qu'une partie de vos émotions soit en harmonie avec une partie des siennes. Bref, que vous tombiez amoureux de son âme. Vous ne pouvez pas lui dire non plus, je sens que c'est la volonté de Dieu que nous soyons ensemble, j'aime ta personnalité, ton âme. Et heureusement, parce que physiquement, je n'ai pas spécialement d'attirance pour toi. on voit de suite, il manque quelque chose. C'est bien, mais il manque quelque chose. Alors prenez un mari sans corps. Ou une femme sans corps. Hein, ceux qui priaient ce matin, vous priez, vous dites, je la veux sans le corps.
Virtuel.
Non, l'attirance physique a également son importance. Paul dit, relatant justement cette déclaration au couple, jamais personne haït sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Éphésiens 5, 29. Amen. Donc le corps a son importance. Et lorsque l'apôtre Paul parle de traiter durement son corps, il parle d'interdire au mauvais désir de son corps de prendre le dessus. Ça ne veut pas dire qu'il empêche son corps de dormir, de manger correctement, parce que le corps est un don de Dieu et on doit prendre soin de son corps. Et la Bible dit que celui qui pêche contre son corps récoltera quelque chose de mauvais. Alléluia! Il faut dissocier le corps et la chair. La chair, c'est la nature de péché. Enfin, la chair est employée de diverses manières dans l'Écriture. Parfois, c'est simplement la chair physique. Et d'autres fois, il est fait allusion à la nature de péché qui habite dans notre corps. On est d'accord? Mais il ne faut pas résumer tout notre corps à la nature de péché. Amen? Donc, c'est bon de manger. C'est bon de boire. C'est bon de dormir, de prendre soin de soi. Le péché, c'est quand on dort trop, quand on boit trop. Et quand on est trop centré sur soi-même. Vous voyez la différence? C'est le déséquilibre des besoins normaux. Donc vous ne pouvez bâtir sur tout fondement qui ne donne pas la priorité à l'esprit, pas plus que sur celui qui ignore l'âme ou le corps. C'est juste une question d'avoir ses priorités à sa place, d'abord l'esprit, ensuite l'âme, et ensuite le corps. Fonctionner dans le sens contraire, bâtir sur le physique en priorité, conduit à la catastrophe. Plusieurs ayant bâti en priorité sur l'attirance du corps, une fois qu'ils ont appris à connaître la personnalité de la personne, en sont arrivés à ne plus pouvoir supporter ce physique qui les a attirés au départ. Il leur faisait horreur. Amen. Et d'autres, par contre, qui n'ont pas été spécialement attirés par un certain physique, quand ils ont appris à connaître l'âme, la personnalité de la personne, ils se sont dit, mais c'est cette personne que je veux avec ce physique-là. Amen. Lorsque vous apprenez à connaître l'âme d'une personne et qu'il y a l'approbation du Saint-Esprit rendue à votre esprit, vous pouvez être attiré par une personne dont vous auriez ignoré l'aspect physique au premier abord. On voit ainsi des gens qui s'étaient ignorés, voire détestés à une certaine période, finir par vivre un amour profond ensemble, un grand amour dont on parlait ce matin. Parfois, il y a des personnes qui prient, « Seigneur, montre-moi à qui tu m'as destiné », et se rendent compte que c'est quelqu'un qui n'était pas loin depuis des années. Mais ils l'avaient toujours ignoré parce qu'ils n'avaient pas vu à l'intérieur. Faut aller voir à l'intérieur. Alléluia. Lorsqu'on se laisse diriger par le corps, on est aveuglé. Alors que lorsqu'on se laisse diriger par l'esprit, on est éclairé. Alléluia. Donc, l'harmonie d'un couple dépend de son travail à se connaître, à devenir unis dans trois domaines principaux, le domaine spirituel, le domaine affectif et le domaine physique. Et ce soir, on parlera de l'harmonie qu'on doit trouver avec ces trois domaines. Alléluia, le domaine spirituel, qu'est-ce que ça peut signifier d'avoir une harmonie dans le domaine spirituel avec son conjoint, dans le domaine de l'âme, des émotions et dans le domaine physique. Vous savez que lorsque le Seigneur il parle dans la Genèse de connaître sa femme, il emploie cette expression « connaître ». Il fait allusion au rapport sexuel. Mais il emploie cette expression « connaître » et ça nous fait comprendre quoi ? Qu'on est supposé avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on connaît. Amen ? Donc il faut apprendre à se connaître avec les gens. Alléluia ! On peut avoir une relation proche avec les gens lorsqu'on a appris à les connaître. Et on peut vivre pendant des années avec un conjoint, avoir des rapports sexuels avec lui, sans avoir vraiment appris à le connaître. Peut-être que vous avez un conjoint et vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez peut-être pas la merveilleuse créature qui est à l'intérieur. Vous connaissez peut-être pas le vaillant guerrier, le vaillant héros, parce qu'il n'a pas encore été révélé, il n'a pas encore manifesté son unicité. Vous savez, nous sommes tous uniques. Et il y a certaines personnes qui font des complexes par rapport aux autres parce qu'ils voient que ces gens, ils ont trouvé quel était leur appel, est-ce que Dieu les appelle à faire. Et ils font un complexe parce qu'ils s'imaginent qu'eux ont reçu un appel particulier et pas eux. Mais la différence, c'est simplement que certains, ils ont déjà découvert leur unicité qui est déjà là, et non pas que les autres, ils n'ont pas une unicité. C'est qu'ils ne l'ont pas encore découverte. Donc dans la vie, c'est comme les fleurs, il faut que ça bourgeonne à un moment donné. Il faut découvrir... Amen. Notre unicité. Il faut découvrir la personne fantastique que nous sommes. Et selon les mauvais choix que nous faisons dans notre vie, on peut devenir le contraire d'une personne fantastique. Mais ce n'est pas parce que Dieu n'a pas mis en nous le potentiel pour être fantastique. Je te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Chacune des personnes qui est sur ces chaises sont des gens merveilleux. Malheureusement, souvent, ils peuvent faire des mauvais choix qui les dirige dans le contraire. Et ils se retrouvent à vivre le contraire de ce qu'ils sont appelés à vivre. Alléluia. Donc, chacun de vous et chaque conjoint a déjà, il avait, même avant même qu'il soit né, lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, un potentiel fantastique. Dieu n'a créé que des êtres fantastiques. Le problème, c'est est-ce que cet être fantastique va sortir ? Est-ce qu'il va se révéler ? Amen. La question aussi, est-ce que je vais l'aider à se révéler, cet être fantastique ? Ou est-ce que je vais entretenir son malaise ? Admettons que tu te maries avec un homme, une femme qui a des complexes, et tu fais continuellement ressortir en t'amusant les choses qui l'ont blessé pendant toute sa vie. Mais tu n'aides pas la personne à prendre confiance en elle, à se sentir belle, à se sentir désirée. Tu es en train d'entretenir les mêmes blessures du passé. Donc tu es un instrument de guérison. Mais tu peux être aussi un instrument de destruction. Vous savez que les gens qui sont les plus proches de nous sont les personnes qui peuvent le plus nous guérir ou nous blesser. Amen. Il y a des choses qui ne vont pas me faire grand-chose, même si ça ne me fera pas plaisir, que vous me direz. Si vous me dites quelque chose de désagréable, bien sûr, ça ne me fera pas plaisir. Mais si c'est elle qui me dit la même chose, ça me blessera. Donc elle a un pouvoir pour me guérir, elle a un pouvoir pour me faire sentir bien, elle a un pouvoir entre ses mains pour que je gagne les nations, pour que je sois à l'aise dans le ministère, pour que quand je me sens pas bien ou je me sens pas à la hauteur, eh bien j'arrive à surmonter parce qu'elle, elle va me rappeler que je suis à la hauteur, elle va me rappeler qu'elle croit en moi et toutes ces choses-là. Donc elle a un drôle de pouvoir entre ses mains. Et parfois je lui dis, tu sais, il y a des choses, j'aurais jamais trouvé le courage de les faire si tu m'avais pas dit, de toute façon je crois en toi, je sais que tu vas y arriver. Et il y a des choses, parfois je pars seul, je fais des réunions, mais je lui dis, si je peux le faire aujourd'hui, c'est parce que tu m'as aidé à arriver jusque là. Et même si tu n'es pas là, c'est parce que tu m'as aidé à arriver là. Alléluia. Donc la personne qui est à côté de nous peut être le meilleur instrument de guérison, mais elle peut être aussi le meilleur instrument de Satan pour nous blesser. Si elle décide de nous dire des paroles désagréables, si elle décide d'être toujours là en train de nous juger. Est-ce qu'on réalise, c'est ça que je voudrais réaliser pendant ces quelques instants, si nous sommes mariés, le pouvoir qui est entre nos mains. Et si nous allons nous marier demain, le pouvoir qui va être entre nos mains. C'est pour ça qu'on dit dans ce monde, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Ça veut dire que le gars, il n'est pas arrivé seul. Et la Bible dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux être seul qu'entendre toute la journée certaines choses désagréables, avoir une femme toujours derrière. Il vaut mieux habiter seul. C'est mieux pour le moral. Vous savez, on vient tous à Christ, on a des complexes. Le diable, il a travaillé dans notre vie pour nous détruire. Il faut qu'on ait quelqu'un qui nous dise qu'il nous trouve beau. Alléluia. Alors, un homme, il n'a pas désiré que les autres femmes viennent lui dire qu'elle le trouve beau. Mais il a besoin que la sienne lui dise. Et une femme, elle n'a pas besoin que les autres hommes viennent lui dire qu'elle le trouve beau. C'est pourquoi le jugement des autres, il n'est pas important. Si personne ne te trouve beau, mais que ton conjoint, il se marie avec toi, et il te trouve beau, et il te le répète, c'est tout ce qui importe. Tu peux être victorieux contre le monde entier. Si personne ne croit en toi, mais que ton conjoint croit en toi, tu vas être victorieux contre le monde entier. Quel pouvoir ! Oh, pouvoir de détruire l'autre ou de l'aider à se libérer dans son appel. C'est un pouvoir qui dépasse le pouvoir d'être bien. Je veux qu'elle se sente bien pour que je sois bien. Non, je veux qu'elle se sente bien dans sa peau et dans son appel parce que c'est une enfant de Dieu et que je veux qu'elle réussisse sa destinée. Et sa destinée, ça dépasse mes intérêts. C'est que Dieu a mis dans sa vie une destinée pour qu'elle fasse des ravages dans le camp de l'adversaire. Alléluia. Elle a des dons différents de moi. Alors au début, quand on était, qu'on se fréquentait, elle m'énervait. Elle souriait toujours. Tu sais, moi j'étais un homme très sombre, que j'en avais après le monde entier. J'étais blessé. Et puis elle souriait toujours, mais je dis, c'est pas normal de sourire comme ça. Alors là, elle m'énervait. Alléluia. On marchait dans la rue, je marchais toujours 20 mètres devant, elle marchait 20 mètres derrière, elle s'arrêtait à toutes les vitrines. Et j'y allais. Mais Dieu nous met ensemble différents pour qu'on déteigne l'un sur l'autre. Moi, il fallait que je ralentisse, elle, il fallait qu'elle accélère. Là, il fallait qu'on trouve le milieu de la route, alléluia. Moi, j'avais pas assez de joie, alléluia. Puis parfois, elle était un peu inconsciente, il fallait qu'elle mette certaines barrières. Et puis avec les années, on a déteint l'un sur l'autre et on continue à déteindre l'un sur l'autre. Alléluia. Et il faut qu'on fasse attention à ce qui nous énerve chez l'autre. Parfois ça nous énerve parce que ça révèle notre propre carence. D'ailleurs souvent ce qui nous énerve chez nos enfants, c'est nos propres défauts. Il faut faire attention à ce qui nous énerve. Rappelez-vous de ces petites phrases-là qui sont lâchées pendant ces messages. Il faut faire attention quand... Mais maintenant, tout ce que je désire, moi, c'est qu'elle soit bien avec Dieu. Parce que plus elle est bien avec Dieu, plus elle est bien avec moi. Donc moi, elle va à l'église, elle me dit, tiens, au lieu de rentrer à 11h, j'ai décidé de rentrer à 3h du matin parce qu'on a prié. Je dis, c'est super. Je dis pas, il fallait rentrer à 11h, j'attendais. Oui, c'est un état d'esprit. Tu dois encourager l'autre. Tu dois pas te sentir en compétition avec Dieu. Combien de gens, ils sont jaloux de Dieu aujourd'hui? Dieu me prend ma femme, Dieu me prend mon mari. Mais non, c'est toi qui es en train de briser sa vie. Mais tu veux mettre la responsabilité sur Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un équilibre à trouver. Il y a les gens aussi qui fuient le foyer à l'église. Ça, c'est l'autre extrême. On est d'accord? Mais ce que je veux avant tout, c'est que dans son esprit, elle soit bien avec Dieu. Son esprit soit le plus possible en communion avec Dieu. Alors si parfois ça m'amène à perdre certaines choses vis-à-vis d'elle, de toute façon je le regagnerai parce que ce que je donne à Dieu, ça me reviendra à multiplier. Donc je ne suis pas en compétition, je ne suis pas jaloux avec Dieu. J'ai donné ma femme à Dieu, j'ai donné mes enfants, j'ai tout donné à Dieu. D'ailleurs si je n'ai pas donné quelque chose, il faut qu'il me le montre, je le donne. S'il veut que je donne ma veste, je vous la donne. Amen. C'est important à mentionner toutes ces petites choses. Beaucoup de gens sont en compétition avec Dieu, ils ne s'en rendent pas compte au bout d'un moment.
Hello, oui. Que ça soit vice-versa aussi. Je veux dire, si on n'a pas un homme qui nous encourage dans cette société, eh bien, on ne va pas y aller très loin. C'est évident, parce qu'on a un fort sens de devoir aussi, nous, les femmes. En tout cas, on devrait. Si on n'a pas, il y a peut-être quelque chose à soigner. Mais c'est hyper important de savoir que... Enfin, c'est moi souvent qui mets le frein dans les choses en disant je ne suis pas encore prêt pour ci ou pour ça, mais je dis bah, vas-y. Alors parfois, oui, mais il faut qu'on trouve un équilibre dans toutes choses et qu'il ne faut pas qu'on délaisse un champ pour semer dans un autre. La maison, c'est important. Si on est dépassé, eh bien, peut-être il faut prier pour qu'on grandisse en maturité. Et qu'on arrive à assimiler plus de choses, qu'on arrive à mieux gérer notre temps, qu'on arrive à prendre meilleur soin de notre corps physique et qu'on prenne le temps de le faire. Parce que sinon, on va se griller en chemin. Et ce n'est pas possible qu'on ne peut pas tout faire. Si l'homme, il soit derrière sa femme et qu'il a confiance en elle et qu'il apprécie pour ses différences, eh bien, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on désire, mais ça se cultive dans les deux sens. Et la meilleure manière que ça puisse grandir d'un côté, c'est que nous, on soit déjà comme ça.
Voilà. Il y avait une émission l'autre soir à la télé, je ne sais pas si vous avez regardé, sur les couples. Vous n'avez pas vu cette émission? J'ai trouvé ça intéressant parce que parfois dans le monde, on trouve des couples qui fonctionnent mieux que dans les milieux chrétiens et des gens vraiment qui ont une relation saine entre eux. Et il y avait cette femme qui a fait beaucoup de régimes pour maigrir, mais qui avait été forte vraiment pendant plusieurs années. Vous avez vu ? Mais quand j'écoutais son mari, on lui posait la question, mais alors est-ce que tu l'aimes plus maintenant ? Et pour lui, il disait, mais ça change rien. Donc c'est bien que vous décidiez de maigrir, de changer, d'avoir un meilleur look, et tant mieux, ok ? Mais l'amour n'est pas bâti sur ces choses-là. Donc, je l'ai dit plusieurs fois, ne faisons pas certaines choses pour être acceptés des autres. Amen ? Le mieux, c'est de faire les choses quand on se sent accepté. Alléluia. Et surtout dans le cadre du couple, on se sent accepté, et là, on les fait pour nous. On les fait vraiment pour nous, plus que pour être accepté pour les autres. Et ça, c'est important. Et là, on trouve des forces qu'on ne trouve pas si on le fait à cause de nos frustrations personnelles. Alléluia. Ça peut concerner le poids, ça peut concerner d'autres domaines de la vie. Notre insécurité peut nous pousser à faire beaucoup de choses pour être accepté, pour être aimé. Alors moi, je ne veux pas avoir un conjoint qui fait les choses pour être accepté. Alléluia. Je veux un conjoint qui fait des choses sur la base qu'il sait qu'il est déjà accepté. C'est exactement le principe de la foi qui nous justifie sans les œuvres, mais la foi qui doit aussi produire des œuvres. Alléluia. Mais au départ, elle nous justifie sans les œuvres. Mais une foi vivante, elle va automatiquement produire des œuvres. Est-ce que vous me suivez ? Mais les œuvres en soi ne sont pas obligatoirement la démonstration de la foi. Une foi vivante va être suivie d'œuvres qui sont la démonstration de cette foi vivante, mais toutes les œuvres ne sont pas la démonstration, suivez-moi, d'une foi vivante, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qu'on peut faire sans être motivé par une foi vivante. Vous me suivez ? Dans tous ces principes bibliques, on va les retrouver dans le fonctionnement, dans le couple et dans la famille, parce que ce sont des principes de base et de vérité sur lesquels l'univers il est bâti, le message de l'Évangile il est bâti. Alléluia. Donc je crois qu'on a pas mal lâché de choses cet après-midi, hein. Ce soir on parlera plus en détail sur cette harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. On parlera de sexualité, ça vous dit, hein? C'est bien, c'est important ça. Dans les églises il faut parler de plus en plus de sexualité, honnêtement. Mais on voudrait prier cet après-midi et franchir un cap dans la vie de couple pour certains, dans la vie en tant que célibataire pour d'autres, parce qu'il est important de se marier en étant un célibataire heureux. Bon, je me comprends, c'est relatif heureux, hein, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre d'être seul. Donc, comprenez ce que je veux dire. Pas là, oh, je suis heureux, je suis seul, c'est pas ça. Je suis heureux malgré que je suis seul. Voilà ce que je veux dire. Hein, d'accord ? Mais que dans ce temps, eh bien, vous soyez épanouis. Alléluia. Vous soyez plein de force au service du Seigneur. Ça veut dire, je ne peux pas servir Dieu parce que j'ai trouvé personne, etc. Non. Et pour que le Saint-Esprit, qui connaît aussi chaque situation, cet après-midi, on ressent qu'il y a de la guérison dans l'air. Il y a besoin de guérison ici. Je crois que déjà la parole, elle a fait beaucoup d'effets pour guérir. Elle a envoyé sa parole et elle est guérie. Amen. C'est le ministère que Dieu m'a donné. C'est-à-dire qu'il y a une bonne part de révélation dans les enseignements que j'apporte. Il y a souvent une bonne part de révélation. Il y a des tas de choses que je me retrouve à dire, je n'avais pas prévu de les dire. Et ça, c'est la parole de connaissance ou la parole de sagesse. Et donc, il y a un travail qui se fait quand on reçoit déjà simplement par la parole. C'est pourquoi Jésus a dit à quelqu'un, ou quelqu'un lui a dit plutôt, dis seulement une parole et je serai guéri. Et Jésus lui a dit, va. Il ne lui a même pas imposé les mains ou quoi que ce soit. Donc, je voudrais juste qu'on passe un moment à adorer le Seigneur. On ne va pas saturer les gens, avoir des réunions trop longues. On veut que la parole pénètre vraiment. Il y a encore une réunion tout à l'heure. Mais qu'on ait un temps de prière, un moment où dans la présence de Dieu, on se laisse aller. Qu'est-ce que je veux dire par se laisser aller ? J'ai cette image, cet instant de gens qui sont venus ce matin. Je ne les ai pas vus physiquement, mais je les vois spirituellement contractés. Okay ? Je ne sais pas pourquoi. Un pour une raison, l'autre pour une autre. Et leurs membres sont en train de se détendre. Et je voudrais, dans ce temps de prière, qu'ils se laissent aller. Et j'ai une parole qui peut sembler ne pas avoir beaucoup de sens, mais spirituellement ça a un sens, et qui qui laissent Dieu leur faire pousser des ailes pendant ces instants. C'est-à-dire, pas seulement ils vont être décontractés, mais ils vont sentir qu'ils vont décoller. Ils vont décoller vers où ? Ils vont décoller vers une autre vie. Alléluia. Après ce séminaire. Moi, je crois à la puissance de la parole. Moi, j'ai jamais lu un livre qui m'a vraiment touché, où j'ai reconnu l'Esprit de Dieu sans changer. Je ne comprends pas les gens qui viennent à des réunions qui ne changent pas. Je ne comprends pas. Si la parole est vraiment la parole de Dieu, tout ce qu'on entend, si on le reçoit, ça doit produire quelque chose. Alléluia. Alors, il y a des contractions là pour plusieurs. Est-ce qu'on peut tous se lever ?